Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu délicat, mais que les chrétiens ne peuvent pas laisser de côté. Je veux parler de l'homosexualité. L'homosexualité, donc, semble avoir toujours existé, puisque dès l'Antiquité, on connaît donc des grands penseurs ou effectivement qu'il y avait donc de ce genre de relations. Et aussi, il ne faut pas croire donc que l'homosexualité est disparue. Au contraire, il ne faut pas croire non plus, par exemple, que l'homosexualité est réservée à un milieu peut-être aisé ou artiste. On trouve des homosexuels ou des homosexuels. Au cours de notre discussion, on ne fera pas la différence pour les hommes ou pour les femmes. Chez des agriculteurs, chez la femme de ménage, et ainsi de suite. Et puis, donc, il faut savoir que, suite à une évolution des mœurs, je ne sais pas si c'est dans le bon sens d'évolution, bien sûr, on en parle maintenant plus facilement, elle se cache moins. Alors, évidemment, on y gagne, disons, au niveau de l'hypocrisie, c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas obligatoirement, nécessaire. Et elle s'exprime aussi dans les livres, au cinéma, dans la télévision, où on voit par exemple que dans les distributions, il y a souvent un quota parmi les comédiens qui sont d'origine étrangère, qui est respecté, et on se demande même si maintenant il n'y a pas un quota aussi pour les homosexuels, parce qu'il n'est pas rare qu'au cours de, parmi le, la, dans une série, par exemple, policière, il y ait un personnage qui soit homosexuel. Alors, si c'est la victime, si c'est l'assassin, à la limite, on pourrait peut-être se l'expliquer, mais souvent c'est un rôle tout à fait secondaire, et ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire, et ça n'apporte absolument rien, disons, au scénario. Alors, autre chose, la Bible condamne sévèrement ces pratiques. Pour le chrétien d'aujourd'hui, évidemment, il se pose beaucoup de questions. Et devant cette vulgarisation, il y a problème, bien entendu. Alors, première question. D'abord, connaît-on aujourd'hui l'importance de l'homosexualité dans nos sociétés? Et je veux dire aussi, existe-t-elle dans toutes les sociétés, c'est-à-dire dans les sociétés européennes, américaines, asiatiques, africaines, et ainsi de suite.
Il est très difficile de savoir quelle est l'importance de la communauté homosexuelle. Une des raisons, c'est que tous ne disent pas qu'ils sont homosexuels. Et donc, je pense que les sondages qui sont faits, peut-être, sont inférieurs à la réalité en valeur.
Oui, ça, je le pense, effectivement, oui.
Une raison de cette crainte de dire qu'on est homosexuel, c'est le poids de la religion, contre l'homosexualité, c'est le poids du passé aussi. Il faut savoir que l'homosexualité était condamnable, je crois, avant-guerre. Il faut dire aussi que les occasions de répondre à un sondage ne sont peut-être pas très nombreuses. Elles sont possibles pour certains, mais pas pour tous. Les échantillons sont faits sur un millier de personnes. Toujours est-il que certains sondages donnent, comme on peut le lire, comme je l'ai lu, qu'il y aurait environ un homme sur 25, soit 4%, et une femme sur 45, soit environ 2% d'homosexuels. Ça me paraît peut-être faible, mais c'est de toute façon, tout cela est très discutable. Vous avez dit dans votre question, je crois, est-ce que l'homosexualité est la même dans différents pays? Moi, ayant vécu dans différents pays, j'ai entendu parler d'homosexualité, et dans certains pays étrangers, peut-être plus que dans d'autres, où il y a des coutumes, finalement, peut-être pas forcément d'homosexualité, mais de bisexualité, assez répandue. J'ai envie de dire aussi que la question du nombre de personnes n'est peut-être pas si importante que ça. Je pense que à vous entendre, j'ai envie de dire qu'il y a une première chose qui est très importante, c'est qu'on arrête de persécuter un homosexuel, qu'on respecte la personne, qu'on respecte son chemin.
Effectivement, c'est ça, c'est l'essentiel, effectivement, qu'il faut voir dans notre débat, c'est que l'homosexualité ne mérite pas obligatoirement un jugement sévère, et donc c'est une personne comme une autre, et que dans une religion d'amour, il faut peut-être aussi penser à ces personnes-là. Voilà,
Voilà.
effectivement. Je trouve que c'est peut-être le feu conducteur de notre, le fil conducteur de notre, évidemment, entretien. Alors, justement, pourquoi, disons, la population a ce rejet, cette attitude devant ces situations-là, et en particulier pour le chrétien? Est-ce que c'est vraiment la Bible qui fait, qui va amener obligatoirement le chrétien à le condamner? Alors, c'est une condamnation morale, l'ordre public, donc les écrits publics, on vient d'en parler. Et si actuellement, alors, à de nos jours, c'est un phénomène de mode, quelle est notre réaction devant cette mode, excusez-moi, hein, devant ce courant? Et puis aussi, de l'autre côté aussi, est-ce qu'il faut le laisser passer parce qu'il faut respecter la liberté de chacun, il faut respecter l'autre? Donc, il y a aussi les deux faces, si vous voulez, où on méprise, où on condamne, ou au contraire, on laisse aller, parce qu'on est baigné dans un climat de liberté, d'épanouissement de la personne, et disons du respect de l'autre.
Moi, je citerai deux raisons qui feraient que l'homosexualité est mal vue, hein, pour résumer de manière très
Oui,
courte ce que vous venez
voilà,
de
oui.
dire. La première est une raison de l'ordre de l'humain. Imaginons, par exemple, nous qui sommes à Aix-en-Provence, dans une société occidentale, technologique et aboutie. Mais on a peut-être un peu de mal à s'imaginer ça, mais imaginons que nous vivons dans le désert en tant que nomades et dans un clan qui fait 200 personnes. Ce clan a besoin d'avoir des enfants, des garçons, pour se protéger, pour construire, pour produire et pour vivre. Dans un clan, l'homosexuel est quelqu'un qui a énormément de difficultés à rentrer dans cette perspective-là, pour la bonne et simple raison qu'il ne donnera pas de descendance.
Alors, excusez-moi, je fais un peu l'avocat du diable, mais enfin, on a parlé disons, de 4% de la population. S'il n'y a que 4% des hommes de ce clan qui ne donnent pas des enfants, c'est peut-être pas quand même dramatique.
Absolument, mais à ce compte-là, vous rentrez dans un discours qui peut être de négliger ces 4%. Hein, le problème des 4% dans le clan, c'est que peut-être le 4% est mis à mort.
Ah oui, j'ai les mis à mort, évidemment. Oui,
Hein,
oui,
et
oui.
donc là, il y a quelque chose de dramatique
Oui,
qu'il faut
d'accord.
savoir
Oui.
résoudre.
Parce que moi, je dis pour
Même.
4%, au contraire, qu'on
Hein,
leur laisse tranquille, quoi, je voulais
voilà.
dire.
Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la procréation médicalement assistée. J'ai appris d'ailleurs qu'Elton John et son compagnon attendaient un enfant avec une mère porteuse. Voilà. C'est tout récent. Hein. Donc on est aujourd'hui en 2011, en janvier. Je le dis pour l'enregistrement. Et voilà. Alors une deuxième réalité. La première réalité, c'est donc finalement, du point de vue humain, quelque chose qui va contre la nécessité de l'humain et de la société pour construire. Et deuxièmement, il y a donc quelque chose qui va à l'encontre du point de vue religieux. Alors la religion est un phénomène, la religion écrite est un phénomène moderne, puisque on pourrait dire que nous connaissons l'histoire de l'humanité jusqu'à environ moins 4000, dans ces environs, avec mettons que l'histoire ancienne de l'Égypte, on en connaît quelques bribes, hein, jusqu'à moins 4000. Et c'est vrai que la religion, je me suis pas penché dans mettons les religions anciennes et la religion égyptienne, je ne sais pas ce qu'elle pense de l'homosexualité, mais en tout cas dans la religion juive ou chrétienne, les condamnations, ou en tout cas, oui, la condamnation est formelle, avec des expressions comme les hommes qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Autrement dit, c'est une expression d'un Corinthiens 6, verset 9. Autrement dit, dans la relation homosexuelle masculine, l'homme abuse de soi avec quelqu'un, avec un autre homme. Il se fait du mal. Hein, autrement dit, la Bible est formelle, mais formelle quant à la douleur que l'homme va s'infliger quand il va rentrer dans une pratique homosexuelle. Alors, la religion ou le livre sacré est là pour aussi, donc en deuxième lieu, pour finalement faire craindre cette réalité et faire que dans notre société, il y a eu jusqu'au XXe siècle une grande difficulté.
Alors que l'homosexualité soit condamnée par des chrétiens, en fonction et aux yeux de leur foi, d'accord. Mais parfois, et dans nos sociétés qui ne sont plus du tout spirituelles, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune religion et qui sont très durs aussi avec les homosexuels. Et ce n'est pas parfois qu'ils vont mal les juger ou parfois même leur faire subir des outrages. Dernièrement et actuellement, il va y avoir un procès. Les petits jeunes, les quatre jeunes qui ont plus ou moins laissé pour mort un homosexuel, ce n'était pas pour des convictions religieuses. Donc il y a la société en général aussi qui prend position contre. Alors c'est l'ordre social qui est gêné là. Pour quelle raison aussi, donc dans la société, non religieuse, si vous voulez, matérialiste, aussi il y a cette attitude vis-à-vis de ce qui n'est pas la norme.
Tout à l'heure, je parlais d'intérêt de la société, l'intérêt mettons, de faire des enfants, d'avoir une société qui sait se défendre. Ici, vous me faites penser plutôt à des questions morales, où finalement, en général, l'homosexuel est quelqu'un d'efféminé, quelqu'un qui est plutôt romantique, plutôt gentil, plutôt tendre, dans un contexte de compétition, de bagarre, et même de se défendre, c'est une cible toute privilégiée pour des gens qui sont méchants et qui ne respectent pas l'autre.
Mais ils s'y mettent souvent aussi à plusieurs.
Voilà.
Hein, en général, on n'est pas homosexuel, mais en fait, on n'est pas courageux pour l'attaquer de face, tout seul, hein, effectivement. Je me base sur
Oui, sur les faits.
sur les faits, je lis le journal comme tout le monde, hein, et effectivement. Et cet ordre moral, en fait, en général, n'est pas la préoccupation essentielle de ceux qui attaquent comme ça l'homosexualité. C'est ça qui est surprenant et qui est drôlement gênant dans notre société qui se veut un peu évoluer. Alors j'ai l'impression de me contredire. Je dis, mais attention, l'évolution ne se fait pas dans le bon sens. Et puis là, Mais c'est parce que le problème est là, hein, tous
Quand
les
je
jours.
parle d'ordre moral, ou quand je parle de morale, je parle pas de morale, je parle de morale comme domaine, pas comme principe. Le domaine moral, c'est-à-dire que dans le domaine moral, on voit quelqu'un qui est plus tendre et plus faible, et de ce fait, c'est plus facile de l'attaquer, même à plusieurs.
Donc, oui, c'est ça, c'est de
Hein,
la.
voilà, je parle du domaine moral.
Oui. Oui, parce qu'en fait, disons, puisque l'autre est plus faible que vous disiez, et ne saura pas très bien se défendre, justement, il n'est pas en concurrence vis-à-vis de ces loupards.
Il n'est pas en concurrence, mais c'est une cible plus facile.
Voilà, alors c'est, vous voyez plutôt dans ce sens-là.
Oui.
Ouais, d'accord.
Alors, et aujourd'hui, où les gens veulent se prouver qu'ils sont forts, alors ils vont aller attaquer ceux qu'ils voient comme plus faibles.
Oui, bon, là, c'est un autre problème.
C'est un autre problème.
C'est un autre problème. Alors, pour en revenir au nôtre, disons, on va avoir peut-être un appel un peu, disons, plus scientifique, quoique on ne va pas quand même rentrer dans des grands débats complexes. Naît-on homosexuel ou le devient-on? Ça, c'est le gros problème aussi, lorsqu'on parle des homosexuels. Il y en a très peu qui disent « on le devient ». Ils vous disent « je suis né comme ça ». Alors, quel est votre point de vue?
Mon point de vue est le point de vue d'un chrétien avant tout, quelqu'un qui veut entendre, écouter et recevoir la parole de Dieu, la Bible, parole de Dieu, et aussi le point de vue de quelqu'un qui accompagne les souffrants et donc qui a de fait une expérience qui découle sur un point de vue particulier. Mon point de vue est qu'on devient homosexuel. Je vais dire cela pour deux raisons. La première, c'est que si la Bible que j'estime être parole de Dieu condamne l'homosexualité en tant qu'action, alors c'est forcément que l'homosexuel n'est pas obligé, tenu, organiquement parlant, dirons-nous, de faire ce qu'il fait. Si l'homosexuel n'est homosexuel, alors la Bible ne le condamnerait pas. Par exemple, la Bible ne condamne pas un trisomique à être trisomique.
Oui, je voulais dire en fait que on ne peut pas naître donc homosexuel, puisque ce serait, et ensuite être condamné par la Bible, puisque ce serait quand même donc prévu dans le plan de Dieu, cette naissance. C'est
voilà,
ça que vous voulez dire.
Absolument.
Donc, ça se passe après.
Absolument.
Il y a quelque chose qui déclenche dans ce système-là. Alors, justement, d'après vous, quels sont les éléments qui vont déclencher cette homosexualité?
Alors, tout à l'heure, je vous parlais de deux raisons pour lesquelles je pensais qu'on devenait homosexuel. La première, c'est donc la position biblique. Et la deuxième, c'est que dans mon expérience, j'ai remarqué qu'il y a des éléments déclenchants. Et je dirais que de manière générale, la sexualité se construit dans la relation de l'individu avec ses parents. La sexualité d'un homme se construit dans l'identification à son père et dans la relation à sa mère. Autrement dit, un homme, un adolescent, un jeune homme va se construire en voyant un père présent, un père complet, un père qui aime, un père qui travaille, un père qui attend, un père qui est affectueux, un père qui a une sexualité, un père qui est entreprenant, etc. Et il va plus ou moins construire sa sexualité, c'est-à-dire son désir sexuel, sa vie sexuelle active, son activité sexuelle, en fonction de son identité. Plus son identité sera aboutie, et plus il aura un désir sexuel. Et il y a des gens qui ont un désir sexuel important, et d'autres qui ont un désir sexuel moins important, et cela correspond, dans un sens, à l'aboutissement de leur personnalité. Alors le deuxième point, c'est le côté relationnel. Quand on a, en tant qu'adolescent, donc en tant que jeune homme, une maman qui est présente, qui est affectueuse, qui se conduit en tant que femme, qui est gentille, qui ne déblatère pas, qui ne critique pas tout le temps les autres, qui est contente de ce qu'elle a, qui sait reprendre ses enfants ou son mari quand c'est le moment, qui montre de l'affection avec son mari, qui ne fait pas de clan, qui n'est pas féministe, qui n'est pas machiste, etc. Alors la maman est désirable, on aime aller contre elle, contre sa poitrine, on aime, et de ce fait, on aime entrer en relation avec la maman. Alors, quand l'identification au papa pour le garçon et la relation à la maman est posée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation au papa et pas d'identification à la maman, mais oui, quand même, de manière générale, alors il y a une sexualité que je dirais hétérosexuelle qui se construit. Au passage, notons bien que sexualité ou sexe vient de sécaré, qui veut dire coupé, ou qui veut dire différent, et homo veut dire pareil. Autrement dit, l'homosexualité est une construction absurde, puisque ça veut dire différent, ou ça veut dire pareil, différent. Alors que l'hétérosexualité veut dire différent, différent. Donc, la sexualité, c'est finalement ce que Dieu a créé, a fait, autrement dit, une coupure, une différence sexuelle, pour que finalement, nous qui sommes différents, nous nous retrouvions par la sexualité, autrement dit par la relation sexuelle. La relation qui va utiliser les différences pour être ensemble, non pas pour être pareil.
Alors moi, j'en fais penser à une chose, c'est qu'effectivement, on peut voir qu'effectivement, il y a dans les familles où ils découvrent l'homosexualité de leur fils ou de leur fille et qui rejettent leurs propres enfants. Or, en fait, ils ont une part de responsabilité dans la naissance de l'homosexualité de leur enfant, le père, la mère.
Mais en général, ils ne le savent pas.
Ils ne le savent pas, mais enfin, ils peuvent quand même...
Je vais prendre des exemples très, très simples dans les personnes auxquelles je pense. Je pense à une jeune femme qui a une mère peu affectueuse, très occupée à 36 choses, parce que le père est dépressif, assez absent, se lamente. Je pense à un monsieur qui a eu un père qui était complètement absent, qui ne revenait que tous les 4 mois à cause de son travail, et de ce fait, l'enfant manquait terriblement d'affection, et quand le père revenait, il le battait, et ce qui fait que quand le voisin a vu cet enfant dans sa préadolescence, eh bien, il lui a montré de l'affection, et il lui a montré de l'affection sexuelle, ce qui était un abus punissable pour la loi aujourd'hui. Et il y a eu donc un moment où l'enfant, devenu adolescent, s'est identifié à une femme parce que aimé par un homme, à la fois au niveau affectif et au niveau sexuel.
Donc, vous mettez une deuxième, disons, raison, disons, dans les déclenchements de l'homosexualité, c'est un adulte qui peut effectivement intervenir dans la vie sexuelle d'un enfant, avec le dernier exemple que vous donnez.
Absolument.
Voilà.
Donc, j'appelle ça le traumatisme, un traumatisme de la vie ou un événement.
Voilà. Donc, la famille et aussi donc, des influences extérieures, donc
oui.
Comme ça.
Oui.
Oui. Alors là, la responsabilité de la petite fille ou du jeune garçon est vraiment peu engagée. Hein.
Absolument.
Alors, autre signe déclenchant, des éléments déclenchants, vous en avez d'autres?
Alors donc, il y a le rapport aux parents, qu'on pourrait développer un peu à l'infini, parce que ces rapports sont différents en fonction des gens. On pourrait dire, par exemple, que quand une fille a un père avec lequel elle ne s'entend jamais, alors elle va avoir tendance à haïr le monde masculin.
Bien sûr. Oui.
Et pour peu que la maman soit pas affectueuse, elle aura tendance à aller rechercher l'affection chez les femmes. Hein, voilà un autre élément déclenchant. En autre élément déclenchant, il peut y avoir quelqu'un qui a construit une sexualité soit masculine, soit féminine, peu affirmée, et qui va avoir une mauvaise expérience hétérosexuelle, puis après une bonne expérience homosexuelle, qui va faire que va se, en quelque sorte, pas se vérifier, mais se construire une homosexualité qui pourrait être latente à cause de modèles familiaux. On va dire déficient, c'est pas un mépris dans ma bouche, hein, c'est pas un jugement, c'est une réalité.
Oui.
Et puis après, donc une expérience douloureuse qui va l'amener à faire autre chose.
Et c'est fréquent, là, ce dernier
oui, oui.
exemple.
Oui, oui,
hein.
Oui,
donc on réussit pas très bien sa vie hétérosexuelle et on s'épanouit dans une relation homosexuelle.
Voilà. Ah, bon. Il y a même des gens qui ont une relation hétérosexuelle qu'ils pourraient considérer normale, mais qui n'est pas très, très gratifiante. Et ils vont chercher dans l'homosexualité quelque chose de mieux. Et donc, on peut dire que là, il y a un peu toute une panoplie d'éléments qui vont faire qu'on construit on construit une sexualité, finalement.
Alors, est-ce qu'on peut passer, disons, à un autre chapitre maintenant, disons, la souffrance de ces personnes qui ne sont pas, disons, acceptées dans la société, peut-être, mais qui pour eux aussi, ça pose des problèmes. Il ne faut pas voir tout de suite et uniquement la condamnation de l'Église, le rejet de la société, il y a aussi ce qu'ils vivent. Parce qu'on oublie souvent la souffrance quand même de l'homosexuel. Quand on les voit, disons, peut-être comme ça, à la télé ou dans la rue, heureux, épanouis, je me demande si ce n'est pas tout simplement soit un réflexe de défense ou tout simplement pour donner le change. Je disais, voyez, on n'est pas comme vous, mais on est heureux et on s'arrange et ainsi de suite. Mais en fait, je crois que c'est tout à fait superficiel, ce genre de choses. Vous ne croyez pas ?
La souffrance de l'homosexuel, la considérer, c'est ce qui est fondamental. S'il n'y avait pas de souffrance, je ne serais pas là en train de répondre à vos questions, en tout cas devant un micro.
Oui.
On en parlerait entre nous, mais on n'en parlerait pas pour que ça se sache. Dans la mesure où l'homosexuel souffre, c'est important que le chrétien réfléchisse à donner des perspectives qui puissent libérer l'homosexuel, et on va essayer de cette souffrance dont justement nous allons parler.
En effet, je pense qu'on oublie souvent dans notre monde bien policé que l'homosexuel ou l'homosexuel, je ne fais pas de différence, ressent une énorme souffrance. Il voit bien quand même, donc, un, il n'est pas comme les autres, qui va être rejeté de certains groupes dès l'école. Ah, tu es une fille, oh, tu es un garçon manqué, et ainsi de suite, et on ne te veut pas dans nos jeux, tu ne pourrais pas participer, et ainsi de suite. Hein. Donc, ensuite, il pourra avoir du mal à s'intégrer aussi dans le milieu professionnel. Je pense que ça peut arriver, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais je pense que ça doit exister. Ensuite aussi, il faut qu'ils vont culpabiliser, puis ils ne se sentent pas comme les autres, surtout s'ils ont quand même une foi. Ils doivent se dire, mais pourquoi Dieu m'a fait comme ça ? Mais souvent, il n'y a rien à faire. Ou alors, ils trouvent que c'est une fatalité, et je suis comme ça parce que c'est comme ça que ça se fait. Et ils ne trouvent pas d'éléments suffisamment forts pour pouvoir essayer de s'en sortir. Par ailleurs, je ne pense pas qu'ils soient satisfaits. Effectivement, dans une relation, disons, homosexuelle, même si un couple est prévu statistiquement que ces couples ne durent pas. Ensuite, bon, ils ont peut-être le manque aussi, un manque d'enfants. On en parle beaucoup maintenant avec des couples homosexuels ou d'homosexuels, donc ils adoptent des enfants. Et ça, c'est un autre problème, bien entendu. Ils veulent aussi singer, disons, ce qui est la norme, se marier. Et ça, c'est curieux, puisqu'ils sont dans une certaine norme. Pourquoi vouloir singer, disons, la norme officielle et vouloir se marier? Ça, c'est quand même un peu difficile à comprendre. Et puis, sexuellement, je pense qu'ils ne peuvent pas atteindre ce qu'ils recherchent. Un homme et une femme vont se trouver, et l'un va apporter à l'autre ce qu'ils cherchent. Que deux personnes du même sexe, je pense que ça va être possible. Voilà, je ne sais pas. Donc, il y a une souffrance, effectivement. Ils sont donc dans la frustration, et ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que donc l'homosexuel a une souffrance? Oui.
Alors, je ne vais pas pouvoir le généraliser, parce qu'il y a des homosexuels chez qui j'entendrai éventuellement qu'ils ne souffrent pas. Mais moi, je n'ai pas à dire tous les homosexuels souffrent, ça serait un peu du despotisme. Je ne sais pas s'ils souffrent. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à ceux qui souffrent, parlons ensemble. Et écoutons alors, le message biblique.
Vous voyez la différence. Je vous arrête tout de suite. Vous pensez qu'il y a des homosexuels heureux, tant mieux.
J'ai pas dit ça. Hein.
Mais hein, qui ne veut pas souffrir.
J'ai pas dit ça. Je veux dire que si, par exemple, dans le regard que j'ai sur les homosexuels, je vais dire, toi, tu es homosexuel, donc tu dois souffrir, c'est terrible d'avoir un regard comme ça.
Oui, bien sûr, oui. C'est en fait moi l'image
Voilà, la Bible
que je me fais
dit,
un petit peu, oui.
celui qui pèche contre moi, c'est la sagesse qui parle, fait du tort à son âme. Donc effectivement, je crois que l'homosexuel fait du tort à son âme
Mais
et
voilà.
donc se fait mal.
Oui.
Mais en attendant, si je vais rencontrer ou croiser un homosexuel ou manger avec lui, je ne lui poserai pas comme question, est-ce que tu souffres?
Bon, oui,
Parce
donc
que ça me
ça, je
paraît
comprends, effectivement.
trop intrusif,
Oui, non,
trop...
mais bien sûr, oui, mais vous ne le diriez pas
Hein?
non plus à un alcoolique ou à une autre personne qui aurait aussi... Non, oui, non, mais ça,
Voilà,
je comprends très bien
voilà.
ça, effectivement.
Maintenant,
Vous attendrez qu'ils le disent.
voilà. Et donc, et d'autre part, les homosexuels n'ont certainement pas tous et toutes les mêmes souffrances.
Oui, j'en ai fait un petit catalogue,
Hein?
j'espère que la même personne ne les en ressent pas toutes,
C'est
effectivement.
ça, voilà. C'est pour ça que je prends quelques gants, hein, je
Oui,
suis...
d'accord, oui.
Hein, voilà.
Non, mais moi, je veux vous faire parler sur l'homosexualité, donc si vous voulez, je mets le paquet.
Voilà, très bien, très bien, très bien.
Alors, vous aviez commencé à dire parler de la Bible. Oui, justement, alors, il y a la Bible et aussi une question préalable, que peut leur apporter donc le chrétien?
Il y a un passage que je trouve essentiel dans la Bible, c'est ce passage de cette lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1er. On va pas lire, ce serait un petit peu trop long, mais chacun pourra le lire et s'y référer par la suite, et dans lequel on voit quelque chose d'intéressant. Le sujet général de Romains, c'est comment être juste devant ce Dieu qui est tellement grand, transcendant et quelque peu inquiétant. Et pour parler de l'injustice, alors dans le chapitre 1er des Romains, voilà que il est question de l'homosexualité. Mais il n'en est pas question, finalement, n'importe comment, on n'en parle pas juste comme ça, l'homosexualité. On en parle avec une progression dans la présentation des choses que je trouve très, 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 très importante. Dans ce passage de Romains 1, à partir du verset 23 et jusqu'au verset 28, il y a trois expressions qui reviennent, trois fois l'expression qui revient, ils ont changé. Et on voit, je crois que c'est au verset 23, au verset 25 et au verset 26, ils ont changé. Au verset 23, le Créateur en la créature. Ils ont changé Dieu en ce qui n'est pas Dieu. Autrement dit, ils ont adoré non pas Dieu, mais ce qui n'est pas Dieu. Autrement dit, ils ne se sont pas adressés à la bonne personne.
Donc, ils n'ont pas adoré Dieu, ils ont adoré la créature, donc ils ont adoré la créature qu'ils ont aimée. C'est ce que vous voulez dire?
Non,
Ah non, parce qu'alors ça devient pareil avec un homme et une femme.
c'est quelque chose de général, c'est-à-dire que l'homme a ne s'est pas adressé à Dieu, il a en quelque sorte ignoré Dieu, et de ce fait, il a été privé de quantité de choses, dont la relation à Dieu. Voilà,
D'accord, oui.
on pourrait dire que c'est de l'idolâtrie. Le deuxième changé dit que de fait, ils ont changé la vérité en mensonge. Et le troisième changé dit qu'ils ont changé le comportement naturel en comportement contre nature, dont l'homosexualité. Autrement dit, dans cette progression dans un changement, dans une chose qui est mauvaise, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont changé de correspondant, ils devraient correspondre avec Dieu, ils n'ont pas correspondu avec Dieu. Du coup, ils ont changé de vérité, puisque la vérité qu'ils ont reçue de leur mauvais correspondant n'était pas vraie, ou n'était pas vraie en partie. Et de ce fait, ils ont accepté le mensonge au lieu de la vérité. Et de ce fait, ils se sont mal comportés, troisième volet. Ce qui me fait dire que aujourd'hui, dans cet exemple qui est tout à fait simple, qui est à la portée d'un lycéen, hein, en termes de compréhension, hein, je ne suis pas en relation avec la bonne personne, première étape, premier changement. De fait, je n'ai pas la bonne vérité, deuxième changement. Et du fait, je me comporte mal, troisième changement. Voilà. Alors, ce qui fait que quand j'ai une pratique homosexuelle, Eh bien, si j'ai une mauvaise pratique, que ce soit dans les faits, que j'ai des relations sexuelles, ou dans les pensées, dans les réactions, ou dans les envies, dans les désirs, ça c'est le troisième niveau, alors il faut que je revienne en rupture, non pas au deuxième niveau, mais au premier niveau. C'est-à-dire que je sois en face à face avec Dieu, qui me révèle la vérité, et qui fasse que mon désir change en profondeur, et que je puisse changer ma pratique.
Oui, je suis entièrement d'accord, mais il nous arrive de rencontrer parfois, effectivement, dont des homosexuels et des jeunes. C'est un discours qui peut s'appliquer peut-être à celui qui est quand même croyant.
Oui.
Parce que le premier point va disparaître pour un non-croyant.
C'est pour cela que Dieu, finalement, fait deux choses. La première, c'est qu'il parle. Et si le non-croyant ne veut pas l'écouter, alors il fait une deuxième chose. C'est qu'il a doté le non-croyant d'une conscience ou d'une sensibilité à ce qu'il va faire mal et à ce qui va lui faire mal. Autrement dit, si, comme je le crois, l'homosexuel se fait mal, alors il y aura un moment où il en aura assez d'avoir mal, et où il se posera des questions, et il faudra qu'il se pose des questions dans un face-à-face avec Dieu qui le conduira, à la fois dans une relation personnelle qui lui fera du bien, mais dans une vérité qui le libérera des mauvais comportements dans lesquels il se trouve.
Et puis peut-être aussi, en fait, du moment qu'il fait une démarche pour consulter quelqu'un, pour l'aider, disons, pour se libérer de cette situation, il y a quand même déjà une démarche, même s'il n'y a pas la foi comme on l'entend.
Voilà. Et une démarche à l'égard de laquelle on va bien noter que la démarche chrétienne n'est pas une démarche de condamnation ou de reproche, mais une démarche pour montrer comment l'homosexuel peut faire pour s'en sortir, ce qui est quand même fondamentalement différent.
Oui, et c'est essentiel. Alors que souvent, c'est pris pour un péché. En
Voilà.
fait, il a péché. Or, en fait, vous n'êtes
Voilà.
pas d'accord avec le terme, je suppose.
Je suis d'accord avec le terme dans le sens où je dis il se fait mal.
Il se fait mal, oui.
Hein? Mais je relativise le terme dans le sens où ce n'est guère qu'une occasion de plus pour l'humain d'être condamné par Dieu au vu de tout ce qu'il fait mal. Mais nous faisons quantité de choses de mal et nous avons à apprendre de Dieu à bien faire.
Alors, il y a aussi des situations un peu particulières, disons, la jeune fille qui sait qu'elle a des tendances, comme on dit, homosexuelles, qui ne veut pas trouver un fiancé et se marier, ou un compagnon, disons maintenant, mais qui sait qu'elle ne peut pas, disons, céder à cette tendance. Quelle est cette situation? Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Je pêche si je me fais mal en passant à l'acte. Mais si je deviens une obsession, mais que je ne passe pas à l'acte, est-ce que je suis au même niveau de péché? Et ça, on en voit beaucoup aussi.
Je le reformule un peu à ma manière, vous me direz si c'est ça. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne pratiquent pas, mais qu'ils ont ces désirs-là, alors c'est acceptable.
Acceptable ou pas, je ne peux
Voilà.
pas, je ne sais
Alors
rien.
ma réponse, c'est de dire non. C'est pas acceptable parce que la personne qui a ce genre de désir n'est pas libre du désir. Et ce qu'il faut qu'elle trouve, c'est la liberté quant au désir.
La liberté quant
Donc,
au désir,
ma
oui.
pratique d'accompagnant pastoral de proposer à la personne de trouver la liberté quant à son désir et qui lui vient de la manière qu'il ou elle a de regarder à l'autre personne. Et de cela, on va en parler.
On entend dire souvent qu'il n'y a pas de péché à être tenté. Mais dans ce cas-là, disons, la seule présence du désir donc pourrait être compris comme le dire qu'il n'y a pas encore le péché. Je désire, mais je ne passe pas à l'acte, disons un terme plus simple.
Alors, il faut peut-être premièrement bien poser les choses pour ce qui concerne le péché. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est une expression un petit peu compliquée de Romains 8, verset 1, mais qui dit ce qu'elle veut dire. Autrement dit, pour ceux qui ont compris que Dieu était en Christ quand il était sur la croix et qu'il portait nos péchés à notre place, alors ceux-là qui ont reçu en fait l'expiation de leurs fautes, et même ceux qui l'ont reçu sans connaître le Christ, ceux-là sont justifiés par l'œuvre que Dieu a faite. Et donc, toute faute n'est pas un péché qui relève de la condamnation, puisqu'il n'y a plus de condamnation, mais par contre un péché qui est un désordre en nous, et qui est un réinvestissement dans le désordre. Donc quand on pêche, on se fait deux fois mal. Quand on pêche, on se fait mal parce qu'on fait mal dans l'instant, et on se fait mal parce qu'on réinvestit pour se faire mal. On reprend une habitude de mal faire. Alors voilà déjà une première chose à l'égard du péché. Maintenant, parlons du désir. Le désir est, il me semble de manière assez claire, le fruit consécutif à l'ensemble des pensées que j'entretiens à l'égard de quelque chose. Pour faire plus court, je dirais que l'envie vient du prix que l'on accorde aux choses. Si je sais que boire du thé vers 5 heures, c'est bien, alors j'ai envie de boire du thé. Par contre, je n'ai pas envie de manger mon vélo. Et donc, le désir provient d'un ensemble de choses qu'on a envisagées comme étant bonnes. Bien. Si donc, j'ai par exemple, moi, en tant qu'homosexuel, souffert de différentes manières, je ne rentre pas trop dans les détails, mais d'un père absent, moi en tant qu'homme, et d'une mère très dure et très trop présente à m'empêcher beaucoup de choses et à être inquiète pour moi, par exemple, je vais, moi, finalement, nourrir un désir de manière générale à l'égard des femmes, qui serait un mauvais désir, en disant « toutes ces femmes, elles m'ennuient, elles sont... » et je vais être sensible à ces femmes qui me rejettent, qui me critiquent, qui me harcèlent, qui me demandent des choses que je ne peux pas faire, hein, comme ma mère. Et puis, à ces hommes, je ne parle pas de moi, et je vais avoir du mal avec ces hommes qui ne me donnent pas d'affection. Et alors, chaque fois que je serai en face d'un homme qui me donnera de l'affection, je vais fondre.
Bien sûr.
Et en fait, ça viendra d'un ensemble de présupposés ou de pensées préalablement établies en moi qui aboutiront à ce désir-là. Alors, comment sortir d'un désir homosexuel? Eh bien, c'est en comprenant que, à un moment donné, dans l'ensemble des pensées que j'ai à l'égard de la vie, j'ai fait un amalgame entre l'amour et la sexualité. J'ai quelque part certainement souffert d'un déficit d'amour à l'égard de mon père et d'un déficit de relation à l'égard de ma mère, d'un déficit mettons, d'affection du père qui fait que je vais la rechercher moi en tant qu'homme chez les hommes, et d'un déficit d'affection à l'égard de ma mère, de la part de ma mère, qui fait que je ne vais pas avoir envie de la rechercher du côté des femmes. Et donc, bien comprendre que, quelque part, j'ai construit de manière responsable ou non responsable, parce que j'étais petit, une sexualité dans laquelle j'ai envisagé l'acte sexuel avec, mêlé à l'amour de la part du père ou de la mère. Et de cette construction-là, je peux revenir, parce que je peux en avoir conscience, et dire non. Voilà, maintenant, c'est pas que je me renie moi personnellement, mais je comprends que si je suis chrétien, ben je comprends que la Bible m'appelle à autre chose, alors je peux passer à autre chose, et puis l'Esprit de Dieu va me donner des convictions. Si je ne suis pas chrétien, parce que je souffre, alors je comprends que je peux passer à autre chose, et je m'ouvre à une conception des choses différentes. Je vais regarder l'homme comme étant capable de me donner de l'affection, mais je vais désolidariser affection et sexualité. Je vais regarder l'homme, si je suis une femme, comme étant quelqu'un qui est capable de me donner de l'affection. Je vais regarder la femme, si je suis un homme, comme quelqu'un qui peut me donner cette affection, et je vais, dans un sens, peut-être moins subir une femme qui me blessera, qui me fera du mal, et on en connaît quelques-unes, moi en tant qu'homme, de femmes qui sont comme ça, ou moi je ne peux pas dire en tant que femme, mais des hommes qui sont blessants, bien sûr, il y en a des machos, des gens qui montrent de la bêtise et de l'inconséquence, mais on peut sortir de ça et finalement avoir une relation qui est beaucoup plus normale avec la femme ou avec l'homme, suivant qu'on est homosexuel, homme ou femme.
Donc en fait, c'est toute une rééducation du regard sur l'autre et du sentiment.
Et une rééducation, absolument, qui doit se faire dans un face-à-face avec Dieu. Autrement dit, il ne s'agit pas de tomber dans une méthode couée, en disant, voilà, j'ai décidé, Coué, hein, ce psychiatre oui, des années 1930, j'ai décidé que je ne suis plus homosexuel, et je vais reconditionner ma pensée. Dans un sens, cet homme-là n'avait pas tort. Le problème, c'est que si on n'a pas la présence de Dieu, en tant que personne qui nous conduit avec l'affection, avec la consolation, avec tous les soins dont il nous entoure, et puis la vérité de Dieu qui nous libère, alors on est vraiment orphelin.
Donc l'homosexuel qui arrive à s'en sortir, c'est peut-être pas très beau comme expression, en fait, il faut qu'il l'oublie. Il a retrouvé une certaine liberté, il ne faut plus qu'il culpabilise parce que dans le passé, il avait effectivement eu des relations sexuelles.
Absolument. Le passé, c'est le passé. Personne n'a à rougir de son passé parce que, en tant que chrétien, tout ce que nous avons fait dans notre passé a été jugé à la croix de Jésus-Christ. Mais d'un autre point de vue, je ne sais pas vraiment si quelqu'un peut s'enorgueillir de son passé. En tout cas, si on projetait le film de ma vie, je crois que je serais confus, c'est absolument clair. Et je n'ai de plaisir à voir les choses que de ma vie que dans la mesure où Dieu les utilise de bonne manière.
Oui, et donc, ça doit être quand même difficile pour l'homosexuel ou l'homosexuel de revenir comme ça, je ne sais pas, droit chemin, je ne veux pas dire droit chemin, ni à la surface, mais enfin, nous sommes dans une situation normale.
Je pense que c'est... Alors, je ne peux pas dire parce que moi, je ne le suis pas.
Oui.
Mais je pense que c'est aussi difficile que pour un timide de sortir de la timidité, pour un obsédé de l'argent de sortir de l'obsession de l'argent, et pour toute autre obsession de ce genre-là.
De sortir de l'alcool.
Voilà. Mm. Voilà. Et je pense que dans la mesure où dans une démarche vraiment volontaire, on demande à Dieu de nous donner une compréhension vraiment des choses comme il la voit, alors je crois que la liberté peut s'obtenir de manière relativement rapide.
Avant de terminer, il faut peut-être aussi envisager l'homosexualité au niveau de la communauté, de l'Église. Parce qu'effectivement, on peut être chrétien et juger l'homosexuel, et mal juger bien entendu, le rejeter, ou être au moins même l'objet de moquerie, ce qui est aussi cruel. Donc ce n'est pas une attitude très évangélique. Alors comment pouvoir faire comprendre, disons, aux chrétiens que cette personne est quelqu'un qui est dans la souffrance et qu'il faut plutôt l'aider plutôt que de la rejeter. Comment peut-il l'aider ?
Je suis d'accord avec vous, il y a aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, quelle que soit la forme de christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, évangélique, charismatique, il y a deux excès, me semble-t-il. Le premier, c'est l'excès du jugement, du rejet, de la crainte, hein, et de la crainte même, entre guillemets, de la contagion, vous voyez, hein, avec, oui. C'est pire, parce qu'en fait, on rejette l'homosexuel pour soi. Mm. On a peur, il y a quelque chose qui fait peur.
Oui, la mère de famille qui a peur que si le camarade de son fils qui est au catéchisme avec son fils l'est, puisse influencer son propre fils.
Voilà. Mm. Et puis un deuxième excès, qui est au contraire de dire, mais Dieu est amour, c'est pas grave, on verra bien, bon, bien sûr ça pose quelques problèmes, mais quand même, on va s'arranger, on va essayer de s'en sortir, on mène deuil, mais bon, etc. Voilà, ça. Voilà. Donc, d'un côté, trop condamné, de l'autre côté, trop excusé. Voilà. Alors, votre question, c'est, me semble, j'ai entendu, comment communiquer à l'égard des communautés chrétiennes.
Oui, tout à fait.
Je pense que tant qu'une communauté chrétienne n'a pas une position claire à partir d'un texte biblique pour donner à l'homosexuel une possibilité de changer, alors elle n'a pas de message. Et je pense que dans ce que j'entends, en tout cas de manière générale, c'est pas si fréquent que ça d'entendre une position claire. On peut dire qu'il y a des livres en librairie, en bibliothèque, qui sont assez clairs et qui me conviennent bien, qui reprennent cette réalité dans l'Épître aux Romains, de voir comment est-ce que l'homosexuel est appelé à retrouver un contact personnel avec Dieu, à redéfinir une vérité, et cette vérité étant finalement acquise, étant acquise de manière personnelle, de manière volontaire, alors le désir va être amené à changer. Je pense que pour qu'une communauté ne tombe pas ni dans le jugement, ni dans l'excuse, il faudrait que dans les prédications, on en parle. Le problème des prédications, c'est que, en général, à la messe, c'est peut-être pas le moment, parce que tout le monde est là, on a besoin d'entendre des choses peut-être plus générales, plus profitables pour l'ensemble. Si, par exemple, il y a, comme on le pense, environ 5% d'homosexuels, alors c'est un petit peu embêtant de faire une prédication pour 5%.
Mais peut-être qu'ils ne sont pas tous là ce jour-là.
Et peut-être qu'ils ne sont pas tous là ce jour-là. Alors, si déjà on déplore que les gens n'aiment pas les prédications et ne viennent pas pour les prédications, alors si les gens ne se sentent pas concernés pour les prédications, alors c'est dommage. Je fais là un peu une objection. C'est que, quand même, je pense que nombreux sont les personnes qui ont dans leur famille quelqu'un qui est concerné par cela. Et donc, nous avons un message à donner pour l'homosexualité, comme pour d'autres choses, le divorce, par exemple. Et je crois qu'on a un message clair à poser à l'égard de ce que c'est que l'homosexualité. Savoir comment on peut devenir homosexuel avec cette formule que je propose de garder, la sexualité se construit dans l'identification aux parents du même sexe et dans la relation au sexe opposé. Alors, il faut la retenir, y penser, voir par quels exemples on peut la poser de manière personnelle, comment est-ce qu'on l'a vécu personnellement, comment est-ce qu'on voit notre propre devenir quand on est hétérosexuel déjà, avec cette réalité-là, et bien faire comprendre à l'homosexuel comment est-ce qu'il a pu devenir comme ça. Si les responsables d'église, si les personnes qui écrivent, si les personnes qui parlent à la radio, si les personnes qui parlent là où on entend à la télévision, là où on entend un discours, finalement un discours chrétien, si les personnes parlaient comme ça, alors peut-être que ceux qui sont dans une pratique homosexuelle pourraient entendre, réagir et se positionner.
Oui, mais d'après ce que vous venez de dire, moi je trouve que c'est plutôt une position privée du chrétien qui donne son entourage à un homosexuel plutôt que le responsable d'église.
Il faudrait idéalement les deux.
Mais oui.
Il faudrait que le responsable d'église...
Alors je comprends bien qu'il ne puisse pas faire le sermon tous les dimanches sur l'homosexualité. Voilà, se ferait très certainement attaquer et accuser de je ne sais pas quoi. Mais
ça, voilà, là, ça dépend comment est-ce qu'il le fait.
Oui.
En tout cas, s'il prend la parole de Dieu et qu'il la commente...
Là, il peut par exemple inviter le membre de la communauté dont il sait qu'il serait homosexuel et lui inviter un rendez-vous à une démarche.
Voilà, mais le problème aussi qui se pose, je vais prendre un autre exemple pour l'étayer, c'est que quelquefois, dans la communauté, de manière inconsciente, de manière globale, on estime qu'il n'est pas possible de sortir de cela. Et alors on ferme les yeux, on attend, on espère, etc.
Alors c'est bien que celui aussi qui est dans cette situation, il a encore moins d'idées de penser qu'on
voilà.
va sortir.
L'exemple hein. que je voulais prendre, c'est qu'aujourd'hui on dit un dépressif, ben, il est dépressif le pauvre. C'est une maladie, il ne peut pas grand-chose. Et personnellement, je ne crois pas que ce soit juste. Et donc il faut que la communauté rentre dans une autre forme de compréhension. Si les responsables d'église, si les écrits, si les documents qui sont présents à l'église et qu'on peut consulter disent à l'homosexuel, voilà, vous êtes arrivé à quelque chose qui est douloureux, et si vous voulez sortir de cette difficulté, alors vous pouvez en sortir. Je pense que si on a ce discours, alors on n'est pas tenté de tomber dans les deux excès que je décrivais après. Je vais maintenant parler un peu de ces deux excès. L'excès du reproche et du jugement. Le jugement, c'est le comportement de celui qui est fragile. La critique, c'est le comportement de celui qui est fragile. On dit que la critique, il y a un proverbe qui dit que la critique est l'arme du faible. Et donc, quand on critique, c'est qu'on est faible.
Oui, et en fait, on critique ou on juge parce qu'on veut se sentir plus fort que l'autre.
Voilà. Et peut-être même qu'on a peur d'être comme lui, ou de tomber, ou de... etc. Oui. Et donc, il faudrait qu'on arrête de critiquer. Un passage qui parle de la critique, c'est le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, qui devrait nous faire comprendre que celui qui critique est faible. Eh bien, arrêtons d'être faible, arrêtons de critiquer. L'autre déviation, l'autre dommage, quelque chose qui est vraiment dommageable, c'est de dire ce n'est pas grave. Si, c'est grave. C'est dommage que quelqu'un puisse entrer dans une sexualité qui n'est pas voulue par Dieu. Alors donc, nous ayons cette vie, cette dynamique intérieure, cette honnêteté de pouvoir dire si c'est grave, c'est dommage. Mais si on n'a pas une réalité qu'on puisse expliquer, quelque chose qui fasse vraiment du bien à l'autre, alors on comprend qu'on préfère se retrancher derrière le fait de dire que c'est pas grave.
Oui, je trouve que ce serait quand même curieux d'estimer que c'est pas grave lorsqu'on a quelqu'un qui est rejeté, qui souffre, et qui n'est pas épanoui et qui risque même de se couper de Dieu.
Alors pour les uns, s'ils ne disent pas c'est pas grave, ils disent on n'y peut rien, alors n'en parlons plus. Mais ça revient un peu au même.
Ça oui, ça c'est l'autruche.
C'est un acte un peu de, je dirais, de pseudo-gentillesse. C'est pas la gentillesse. Oui, non, c'est non, ignorer évidemment. En fait toutes les réalités concernant l'homosexualité dans la Bible et de finalement de faire, d'essayer de faire avec en quelque sorte.
Donc pour conclure.
Alors pour conclure, je crois que il s'agit vraiment de prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est de dire bon, voilà, je suis, on va dire, plus ou moins croyant. J'ai entendu un enregistrement dans lequel des gens peut-être bien pensants ou bien gentils ou veulent se faire l'ambassadeur de Dieu. Voilà, j'ai entendu qu'on pouvait sortir de l'homosexualité. Voilà. Je crois Dieu, je veux prendre vraiment Dieu à témoin, je veux dire à Dieu, écoute, ça m'intéresse. C'est vrai que la sexualité que je vis ne m'ouvre à rien. Donc, je suis prêt même, Dieu, à te fixer, allez, 3 mois. Hein, je te fixe un temps pendant lequel je vais vraiment t'écouter, prendre la peine de t'écouter. Je vais prendre la peine de te rencontrer en prière, en lecture de la Bible, en fréquentation de l'Église, en parlant avec des personnes, en allant voir quelqu'un qui se dit accompagnateur pastoral. Voilà. Je vais prendre la peine de faire quelque chose. Et puis, je vais me placer vraiment en face à face personnel avec toi. Je vais dire, voilà, je me place devant toi, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je suis dans cette réalité relationnelle, interpersonnelle avec toi, et je m'ouvre à toi, vas-y. Ça, c'est le côté relationnel. Et je vais revenir dans ce verset 23 du chapitre 1er de Romains, ils ont changé le Créateur en créature. Ils ont changé Dieu en ce qui n'est pas Dieu. Voilà, maintenant, je veux avoir affaire au Dieu seul. Et je vais vraiment me prendre en main pour le faire. Première chose. Deuxième chose, en tant que quelqu'un qui a une pratique ou un désir homosexuel, je vais être attentif à cette vérité que Dieu me signifie. Alors, c'est quoi la vérité à l'égard de l'homosexualité? Eh bien, d'abord, c'est la vérité à l'égard de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Je vais réfléchir et on ne va pas prendre le temps de le faire maintenant, mais dans ce que me raconte Genèse 1, 2, 3. En Genèse chapitre 1, j'entends que l'homme et la femme sont créés ensemble pour une même œuvre. Dieu fit l'homme à son image, il les créa, mâle et femelle. Autrement dit, il le créa à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais il est créé, ils sont créés au pluriel, mâle et femelle. Autrement dit, ils sont créés à l'image de Dieu, mais ils sont créés séparément, mâle et femelle. L'un est créé mâle, l'autre est créé femelle, et donc ils ont à faire quelque chose avec Dieu. On voit ça au chapitre 1er. Mais au chapitre 2, on voit qu'ils sont créés séparément. On voit que l'homme et la femme sont créés séparément. On voit que l'homme est d'abord créé pour faire quelque chose avec Dieu, mais on voit que la femme est créé parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul. Autrement dit, il faut que l'humain soit en relation avec l'autre. Et donc, Dieu prend quelque chose dans l'humain, il en fait l'homme, donc à qui il manque quelque chose, et il en fait la femme, de à partir de quoi il fait quelque chose. Autrement dit, la femme, c'est ce qui manque à l'homme, et l'homme, c'est ce que il résulte de l'humain à qui Dieu a enlevé quelque chose. Autrement dit, nous sommes différents. Et donc, on voit au chapitre 3 comment ces différences s'expriment. La femme va souffrir dans le côté relationnel et l'homme va souffrir dans le côté actionnel. Alors peut-être qu'il est bien à l'homosexuel de réfléchir à tout cela et de faire du chemin en demandant au Seigneur, mais Seigneur, révèle-moi qui je suis, révèle-moi voilà ce que je dois penser, quelle est la vérité à laquelle je dois accéder. Une deuxième vérité, c'est, on lit par exemple dans ce verset de l'Épître aux Corinthiens, Corinthiens 6, versets 9, 10, 11, on lit qu'il est écrit de l'homosexualité que l'homme abuse de lui-même avec un homme. Autrement dit, il se fait mal. Il abuse de lui-même, de lui-même.
Oui, de lui-même.
C'est pas seulement de l'autre qu'il abuse, c'est aussi de lui-même. Autrement dit, Seigneur, montre-moi. Comment est-ce que cette souffrance, je me l'inflige? Montre-moi par exemple qu'est-ce qui ne me fait pas du bien dans l'acte sexuel, mais d'autre part, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien dans le manque de respect que j'ai à l'égard de l'autre? Pourquoi est-ce que je ne respecte pas l'autre en aimant quelque chose qui ne me fait pas du bien? Pourquoi est-ce que je ne respecte pas l'autre en l'introduisant dans une intimité
Situation.
dans laquelle il ne devait pas être? Voilà un peu quelle est ma conclusion.
Merci beaucoup.